إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى. On parle du mercredi, en cette soirée du mercredi 18 Jumad al-Oula 1435 de l'Hégire, correspondant au 19 mars 2014. Donc aujourd'hui, c'est le 46e cours du livre Le Dogme du Monothéisme. Alhamdoulilah, j'avais pas de connexion. La connexion est venue, ça fait peut-être 5 minutes. Alhamdoulilah. Sinon, il n'y aurait pas eu cours. Alhamdoulilah. Juste une petite révision sur, les titres. Les titres, vous savez que, Inch'Allah Ta'ala, vous savez que on est au cinquième chapitre, qui est ce que l'on doit croire à l'égard du messager, alayhi salatu wa sallam, la famille de ses compagnons. Ce cinquième chapitre contient six sous-chapitres. Le cinquième chapitre contient six sous-chapitres. On en a vu cinq. Le premier, l'obligation de l'aimer, alayhi salatu wa sallam, et de l'honorer, etc. Le deuxième, l'obligation de lui obéir, alayhi salam, et de le prendre comme modèle. Le troisième, la légitimité de la prière et de la salutation sur le messager, alayhi salatu wa sallam. Le quatrième, les mérites de la famille du prophète, alayhi salatu wa sallam, et notre devoir en eux, sans laxisme ni excès. Le cinquième, c'est-à-dire le cours passé, les mérites des croyants, ce qu'on doit croire à leur égard et l'attitude des gens de la sunna et de l'unité envers ce qui est passé entre eux. Et le sixième, et le dernier, le cours d'aujourd'hui, le dernier de ce chapitre, l'interdiction de proférer des injures à l'égard des compagnons et des imams de la guidée. L'interdiction de proférer des injures à l'égard des compagnons et des imams de la guidée. Donc, on va commencer par, inshallah, premièrement, l'interdiction d'insulter les compagnons, l'interdiction d'insulter les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Cheikh Fawzan dit, hafidhahullahu ta'ala, parmi les fondements des gens de la sunna et de l'unicité, une seconde, inshallah, tayyib. Parmi les fondements des gens de la sunna et de l'unicité, il y a le fait que leur cœur et leurs propos, et ce qu'ils disent, soient exempts de toute rancune envers les compagnons du messager. C'est ainsi que Allah Ta'ala les a décrits lorsqu'il a dit dans le Coran « الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ نرضي لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 59:10. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant, ceux qui sont venus après les Sahaba, etc. Qu'est-ce qu'ils doivent dire? C'est-à-dire comme nous, on doit dire: Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Vous avez ce qu'ils disent? Vous avez vu ce qu'ils disent? Et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Et aussi on dit: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères. Et parmi les meilleurs de nos frères, c'est qui? Les sahaba radiallahu ta'ala anhum. Cheikh dit: et ils obéissent à l'ordre de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بي لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: N'insultez pas mes compagnons, car je jure par Allah, par celui qui détient mon nom entre ses mains, que même si l'un de vous donne en charité le poids de la montagne de Uhud en or, cela n'équivaudra jamais une poignée de l'un d'entre eux donnée en charité, ou même pas à sa moitié. Bukhari Muslim. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux sahaba, aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, beaucoup de faveurs. Entre autres, le sahabi, naam, il donne une poignée, naam, ou bien la moitié d'une poignée de sa main, en charité, naam, toi et moi, bien sûr, on va donner l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, on ne peut pas yani, équivaler ce qu'ils ont donné, ce que le sahabi a donné. Jamais tu ne peux l'équivaler, jamais. Subhanallah. Pourquoi ? C'est une faveur et une grâce que Allah Ta'ala donne sa grâce à qui il veut. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont souffert. Naam, ce qu'on n'a pas souffert. Ils ont été torturés. Ils sont restés sans manger. Ils sont restés soir des jours et des jours. Naam, ils ont souffert le calvaire. Fi sabilillah. Ils ont fait le jihad. Ils ont donné leur argent. Ceci, cela. C'est pour ça qu'en récompense, Allah Ta'ala leur a donné cet avantage que s'ils donnent une moitié de la poignée. Naam. Fi sabilillah, c'est plus que toi, tu donnes l'équivalent de la montagne d'Uhud en or. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, j'ajoute une chose que le cheikh n'a pas citée, ma'alish, ça vient de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La'ana Allahu man sabba ashabi. La'ana Allahu ashabi. C'est-à-dire que Allah Ta'ala maudisse celui qui est compagnon. Voir Sahih al-Jami' numéro 5511. Cheikh al-Albani rahmallahu a dit hadith fiable. Hassan. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah ta'ala maudisse celui qui insulte mes compagnons. Allahu Akbar. Et rentre bien sûr les compagnons, les épignons qu'on appelle, les femmes, yani, des sahaba. Et en priorité rentre qui? Rentre les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, que pensez-vous de quelqu'un qui non seulement insulte, mais calomnie la meilleure des femmes qu'aime le prophète Islam dans le monde? On lui a dit: c'est qui la meilleure personne pour toi? Il a dit: on lui a dit des hommes. Il a dit son père Abu Bakr. J'ajoute un autre hadith. Le prophète alayhi sallam a dit: man sabba ashabi fa alayhi la'na wal malaikati wan nas ajma'. Quiconque insulte mes compagnons, il a malédiction de ses anges et de tous les gens. Sahih al-Jami' 6285. Cheikh al-Albani hadith bon. Alors imaginez quiconque insulte un compagnon, qu'est-ce qu'il a? Awalan, Allah Ta'ala le maudit. Deuxièmement, qui le maudit? Ses anges. Combien qu'il y a d'anges? Des milliards et des milliards. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit: dans le ciel a voulu une fois yani craquer. On a dit pourquoi? Il a dit: tellement c'est plein d'anges. Il a dit: à chaque ampon, chibre, à chaque ampon, il y a un ange en train de faire la prière, ou bien debout, ou bien incliné, ou bien prosterné. Donc, dans cet univers, si dans chaque ampon, il y a un ange, combien il doit y avoir d'anges? Des milliards. Allah Ta'ala dit: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Et personne ne connaît yani, le nombre de ses soldats, les soldats d'Allah, que lui. Donc, tous ces anges maudissent la personne qui a insulté le prophète. Ensuite, il a la malédiction de qui? De tous les gens. Combien il y a de gens dans le monde? Des milliards. Tout cela, yani, maudisse la personne qui a insulté un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dire quoi? C'est dire que les Rawafid sont vraiment, 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 vraiment de l'autre côté de l'islam. Les Rawafid sont vraiment, 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 comme on dit, à côté de la plaque. Ils sont vraiment à côté de la plaque. Qu'Allah Ta'ala nous préserve d'eux. Le cheikh dit, le cheikh Hafidhahullah dit, les gens de la Sunna dénoncent l'attitude des chiites al-Rawafid et des dissidents al-Khawarij qui insultent les compagnons radiallahu ta'ala anhum, les détestent, renient leur mérite et considèrent la plupart d'entre eux comme mécréants. Quant aux gens de la Sunna, ils admettent en ce qui est afon, ils admettent ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna concernant les mérites des compagnons radiallahu ta'ala anhum et sont convaincus qu'ils sont la meilleure des générations. Au fait, alayhi salatu salam, lorsqu'il a dit Khayrukum qarni, comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith long, mais on a pris le témoin, il a dit les meilleurs d'entre vous sont ceux de ma génération. Ensuite, il a dit, ensuite, ceux qui viennent après, ceux qui viennent après. D'entre vous, a dit Ali Sallam, sont ceux de ma génération. Et ceux de sa génération, Ali Sallam, c'est qui? Ce sont les compagnons, les sahaba. Ce sont les meilleures personnes. Allah Ta'ala les a choisis spécialement pour la compagnie du prophète Ali Sallam quand il a vu que leur cœur est pur, comme dans un hadith d'Abdullah ibn Mas'ud authentique. Et lorsque le prophète, alayhi salam, a parlé de la division de sa communauté en 73 groupes qui seront tous en enfer, sauf un groupe, on le questionna à propos de ce groupe sauvé. Et il a dit, alayhi salam, lorsqu'on lui a demandé c'est qui sauvé, il a dit, hum, men كان مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. نعم, il a dit, ce sont ceux qui sont sur le même chemin sur lequel je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. Ce sont ceux qui sont sur le même chemin sur lequel je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. Car le prophète alayhi salam avait dit auparavant, il a dit, les juifs se sont séparés en 71 sectes et ou alors groupes. Les chrétiens se sont séparés en 72 sectes ou groupes. Il a dit, quant à ma communauté, elle va se séparer en 73 groupes. Non. Il a dit, parmi les 73, 72 groupes de ma communauté iront en enfer. Donc, hein, c'est pas facile, là. Les musulmans, combien qu'ils sont? Sa Oumma, 73 groupes. 72 en enfer. Il n'y a qu'un groupe. Ce qu'on appelle le groupe sauvé. Naam, Firqa Najiya. Mais les Sahaba ont voulu savoir. Ils ont dit à Rasoulallah, c'est qui ce groupe sauvé? C'est qui? Il a répondu à Satan, ce sont ceux qui sont sur le même chemin sur lequel je suis, moi et mes compagnons. Allahu Akbar. Une chose très importante ici qu'il faut remarquer. Quoi? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ce sont ceux qui sont sur le même chemin sur lequel je suis aujourd'hui? Pourquoi il ne s'est pas suffi à cela? Il a dit moi ainsi que mes compagnons. Hein? C'est pas venu comme ça par hasard. Il a dit ça suffit pas. C'est pour ça que nous on dit aux gens, on dit ça suffit pas. Moi je suis le Coran et la Sunna. Je suis ce qu'a yani, ce que nous a yani, légiféré Allah Ta'ala et je suis le prophète alayhi salam. Il dit d'accord, tu suis le prophète et tu le suis d'après qui? D'après la compréhension des Mu'tazila ou des Asha'ira ou des Khawarij ou des Rawafid ou des Jabriya ou des Qadariya ou des Karamiya? D'après qui? Ah là, tu dis, d'après la compréhension des compagnons, self, des sahaba, et ceux qui sont venus après, ceux qui sont venus après. là, tu t'es démarqué de celui qui a dit je suis seulement le Coran et la Sunna. Ça ne suffit pas. Sinon, pourquoi le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشيدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. C'est tous le hadith. Suivez ma sunna et celle, la sunna, des califes bien guidés. Pourquoi il n'a pas dit suivez seulement ma sunna? Pourquoi il ajoute les califes guidés? C'est-à-dire d'après la compréhension de ceux-là aussi. Naam. Cheikh ici dit, Cheikh dit, il va citer quelque chose de très important, il a dit, j'ai oublié de dire, donc ici, qu'est-ce qu'il a dit, il a dit, ce sont ceux qui croient, qui sont sur le même chemin que je suis moi et mes compagnons. Dans un autre hadith fiable, Cheikh Al-Albani a dit fiable aussi, on lui a posé la question, dans un autre endroit, dans un autre moment, il a répondu d'une autre façon. Quand il a dit, ma communauté va se diviser en 73 groupes, 72 en enfer et un au paradis. Ils lui ont dit, c'est qui ce groupe, ya Rasulallah? Il a dit, alayhi sallam, al-jama'a. Al-jama'a. Jama'a, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce sont ceux qui, yani, ce groupe, s'unissent. Naam. Ce groupe, se regroupe. Naam. Tayyib, ils se regroupent, pourquoi? Pour être nombreux et peut-être aller au stade supporter une équipe de football, peut-être. Non. Ils se regroupent, les savants ont dit, Naam, le Jama'a, dont parle le prophète Islam, le Jama'a, ça vient de Yani Tejtami'a. Elle se regroupe sur deux choses. Si tu veux être le groupe sauvé, tu dois te regrouper. Tu as la notion de regroupement sur deux choses. Naam. يعني تجتمع بالأديان وتجتمع بالأبدان. Regroupement par le biais de la religion, regroupement par le biais du corps, du corps. Comment cela? Regroupement par le biais de la religion en suivant le Coran et la Sunna et les salaf salih radiyallahu ta'ala. Donc ça c'est يجتمع بالدين. Maintenant regroupement par ton corps, ça veut dire que ce sont les musulmans, les croyants, qui vont se grouper autour du gouverneur musulman. Ce sont ceux qui ne font pas dissidence et rébellion contre le gouverneur musulman. Mais, il a dit, c'est-à-dire, yishtami'una hawl al-hakim. Ils se regroupent autour de leur gouverneur musulman, bi'idhn Allah ta'ala. Al-Muhim. Le Cheikh cite, il dit, Abu Zura, j'ajoute, rahimallahu ta'ala, le plus éminent professeur de l'imam muslim. Vous connaissez le Bukhari, vous connaissez le muslim. Muslim avait des chouyours. Le plus éminent de ses professeurs s'appelle Abu Zura. Il s'appelait Abu Zura. Rahimallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez ce qu'il a dit, très important. Il a dit, si tu vois un homme ou une femme, bien sûr, si tu vois un homme dénigrant l'un des compagnons, insultant, bien dire de lui du mal ou bien le critiquer, sache alors que c'est un hérétique. Sache alors que c'est un hérétique. En arabe, c'est un zindiq. Quand on dit X, c'est un zindiq, c'est un khlas. Il a quitté l'islam, c'est un munafiq, c'est un khabit, c'est un shaitan, c'est un khlas, c'est un zindiq. Zindiq, c'est quelqu'un qui ni ne prie, ni ne jeûne, ni... Naam. Allahu Akbar. Si tu vois un homme dénigrer l'un des compagnons, sache que c'est un hérétique, c'est un zindiq. Pourquoi? Car le Coran est vérité, le messager est vérité, et ce qu'il a apporté est vérité. Or, cela nous est parvenu, ne nous est parvenu que par les compagnons. Comme ça dit ce professeur. Tout cela ne nous est parvenu que par les compagnons. Alors, celui qui les discrédite veut par là mettre en cause le Coran et la Sunna. Ainsi, ce dénigrement lui est plus approprié et
il méritera à juste titre d'être juré comme zindir et égaré. Zindir et égaré. Subhanallah l'adim. Donc, celui qui discrédite les sahabas. Les sahabas t'ont rapporté le Coran et t'ont rapporté la sunna du prophète Islam. Vont préserver Allahumma barak. Donc, en les discréditant, en les enlevant de la route, donc tout ce qu'ils rapportent n'a plus d'intérêt et va lui accorder d'importance. Donc, tu discrédites. En discréditant les sahabas, en fait, tu veux discréditer quoi? Le Coran et la sunna. Donc, tu es un zindiq. Tu es un hérétique, un égaré. Naam. Ensuite, l'érudit Ibn Hamdan dit dans le livre intitulé Nihayatul Mubtadi'in. Nihayatul Mubtadi'in. Il a dit, celui qui insulte l'un des compagnons en considérant que cela est licite, c'est licite d'insulter, il a dit, il devient mécréant. Et s'il ne considère pas illicite, il insulte un compagnon en disant, je sais que, yani, c'est pas permis, mais je l'insulte. Dans ce cas, il devient pervers. D'après une autre version, il est mécréant dans tous les cas de figure. Yani, qu'il sache, qu'il dise qu'il est licite ou illicite. Dans tous les cas, il a dit, s'il insulte un sahaba, il est devenu mécréant. Quant à celui qui les accuse de perversion, met leur religion en cause, ou les considère comme mécréants, il devient mécréant lui-même. Il devient mécréant. Voir Sharh Aqidat Safarini. Naam, tome 2, page 388-389. Oui. Deuxièmement. L'interdiction d'insulter les imams de la guidée parmi les savants de cette communauté. Premièrement, c'était quoi? L'interdiction d'insulter les sahabas, les compagnons. Maintenant, l'interdiction d'insulter les savants, les imams de la guidée de cette communauté. Cheikh dit, hafidhahullah ta'ala, suivent les compagnons dont le mérite, l'honneur et l'émir, les imams de la guidée parmi les compagnons, des compagnons tabi'oun, et ceux qui les suivirent, faisant partie des meilleures générations, ainsi que toute personne qui vint après eux et suivit les compagnons avec bienfaisance. Allah Ta'ala dit dans le Coran: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Tawba 100. Les tout premiers croyants parmi les émigrés, les Ansar, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée. Et eux, yani, il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Donc, il n'a pas permis de les dénigrer et les insulter, car ce sont des symboles de guidée du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ مَصِيرًا. 415. Écoutez bien ce qu'il a dit. Et quiconque fait scission ou bien fait dissidence avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise intention, quelle mauvaise destination. Remarquez avec moi une chose. Celui qui fait dissidence avec le messager, normalement, tu fais dissidence avec le messager et tu ne lui obéis pas, ça suffit. Ça suffit pour être brûlé dans le feu, ça. Mais Allah Ta'ala ne s'est pas suffi à cela. Il a dit, il fait dissidence avec le messager, et qu'est-ce qu'il fait encore? Il suit un sentier, hors que celui des croyants. Donc on revient à tout à l'heure. Ça ne suffit pas de suivre le prophète, alayhi salam, mais encore d'être sur le sentier des croyants. Naam, d'être sur le sentier des croyants. Et rentre dans les croyants, d'abord les sahaba, ensuite leurs enfants, les tabi'un, tabi'u tabi'in, ensuite les grands savants, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, les étoiles que Allah Ta'ala a mis dans le ciel. Cheikh dit, le commentateur de Tahawiyya, dit, il incombe à tout musulman de s'allier à Allah Azza wa Jal, à son messager et aux croyants, comme il est cité dans le Coran. En particulier, les héritiers des prophètes, les savants. Car Allah Ta'ala les a désignés comme des étoiles qui servent de guide dans les ténèbres de la terre et de la mer. Naam. De plus, les musulmans sont unanimes sur le fait qu'ils étaient des personnages bien guidés et versés dans le savoir. Naam. En effet, ils sont les successeurs du messager d'Allah alayhi sallam dans sa communauté, qui font revivre ce qui est mort de sa sunna. Par eux, le Coran fut appliqué. Et par le Coran, ils se sont dressés sur le droit chemin. Le Coran les a cités et eux l'ont récité. Regardez cette phrase, Allahu Akbar. Comme elle me plaît cette phrase. Le Coran les a cités et eux l'ont récité. Et eux ont récité le Coran. Ils sont tous unanimes, avec une conviction certaine sur l'obligation de suivre l'envoyé de Allah. Mais si l'un d'eux des savants a dit une parole ou a eu un avis qui contredit un hadith authentique, il a certainement une excuse pour avoir abandonné ce hadith. Naam. Un savant, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui a de la science. Ensuite, il dit le contraire de ce qu'a dit un hadith. Ce qu'a dit alayhi salatu wa salam. Est-ce que vous pensez qu'il va le faire exprès? Non. Donc, il est excusé. Il est excusé de ne pas l'avoir suivi alayhi salatu wa salam. Mais en fait, pourquoi il ne le suit pas? Pourquoi ce savant n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On va citer l'ensemble des excuses pour qu'un savant, des fois, ne prenne un hadith. Et on va dire, il y a trois sortes d'excuses pour que le savant ne travaille pas avec hadith. Comme ça, quand vous apprenez ces choses, vous ne serez pas étonné. Pourquoi il y a un hadith antique et le savant, pourquoi Ibn Baz, rahimahullah, il ne prend pas de ce hadith. La première catégorie, c'est de ne pas estimer que le hadith est attribué au prophète, alayhi salatu wasalam. Ne pas estimer que le hadith est attribué au prophète, sallallahu alayhi wasalam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, c'est un hadith, par exemple, faible. Forgé. Non. Il te dit, pour moi, ce hadith n'est pas authentique. Donc, je n'estime pas que c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Pour toi, il est authentique. Pour moi, non. Non. Pour moi, non. J'atteste qu'il n'est pas authentique. Et les savants, ça arrive, ce hadith est authentique. Pour l'autre, il dit non. Il n'est pas authentique pour moi. Pourquoi, par exemple, à cause d'un rapporteur dans la chaîne de transmission. Pour moi, ce rapporteur, par exemple, il a un défaut, il a été critiqué, ou ceci, ou cela, ou il oublie beaucoup, ou pour l'autre, non. Il dit X, l'âme lui a fait les éloges. Il a dit qu'il était, mashallah, et ceci, cela, et terra, sador, adl, etc. Donc ça, c'est une des premières excuses. Je me rappelle une fois, ici, quelqu'un en Algérie, il avait une thèse. Comment on dit munakasha? Il avait une munakasha d'une thèse de magistère. Donc il devait quoi? il devait faire, yani, qu'on dit ça, le mot, c'est-à-dire, le jour-là, il y a des jurés, etc., qui sont venus, et bien sûr, il va présenter sa thèse et ils vont débattre avec lui. Donc, ça s'appelle une munaqasha. Même si vous n'avez pas trouvé le mot avec moi, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Écrivez numéro 1, c'est tout. Connecté. Donc, cette personne, qui dit qu'elle est celle, elle est allée ce jour débattre, défendre sa thèse. On lui a ramené qui? On lui a ramené, comme quelqu'un pour débattre avec cette personne, on lui a ramené Al-Ghazali, rahimahullah. L'un ou l'une des têtes des frères musulmans dans le monde. Comme le Qaradawi, d'ailleurs, ce sont des amis intimes. On lui a ramené qui? Al-Ghazali, il est mort. Rahimahullah. Il s'appelle Mohamed Al-Ghazali. Ensuite, dans le débat, l'étude était un hadith. A dit le prophète islam a dit ceci. C'est-à-dire, il y a eu, disons, le débat chauffé. Le débat chauffé entre l'étudiant et Al-Ghazali. Et l'étudiant lui a cité un hadith. Il lui a dit, le prophète islam a dit ceci. Al-Ghazali lui a dit. Il lui a dit, moi, ce hadith, je le mets sous mes pieds. Moi, ce hadith, je le mets sous mes pieds. La plupart qui étaient dans le salon des salafs, qui sont salafis, yani, se sont levés, ont crié, et beaucoup, ou alors, si ce n'est pas tous, sont sortis. Les musulmans ici-là sont restés. Al-Muhim. Donc, il Ghazali, ça, c'est la tête, l'une des têtes des frères musulmans. Mais Zahma, il est fou au point de dire, je mets la parole du prophète sous mes pieds. Il sait que quiconque dit comme ça, il est devenu kafir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Ça veut dire pour lui, il a voulu dire, pour moi, ce hadith, ou ce que tu dis là, n'est pas la parole du prophète, alayhi sallam. C'est la parole, c'est pas sa parole. Cette parole, moi, je la mets sous mes pieds. Vous avez compris? Mais, qu'est-ce qu'on dit, nous? Même si c'est ça, ce que tu voulais dire, il faut bien choisir ces paroles et ces termes. Pour ne pas y aller faire fitna, et beaucoup de gens ne vont pas prendre. C'est pas tous vont entrer dans ton cœur et ont compris que voilà ce que vous voulez dire et ce que tu voulais. D'ailleurs, j'ai dit, la plupart l'ont eu et sont sortis. C'est pour ça que les salafs, quand ils parlent, comme a dit Cheikh Islam Taymiyyah, il a dit, on doit choisir le mot adéquat. Les mots de Al-Ghazali ont pu dire, ce hadith pour moi n'est pas authentique. Ça s'arrête là. Alhamdoulilah, c'est ilm, c'est scientifique en disant une phrase pareille. Ce hadith pour moi n'est pas authentique, smahli. Mais lui, il a dit, je mets ça sous mes pieds. Qu'Allah Ta'ala nous préserve et nous guide. Donc ça, c'était la première excuse. La deuxième excuse. Pourquoi un savant peut ne pas travailler avec un hadith? Ne pas estimer que le prophète, alayhi sallam, visait par sa parole les en question. Naam. Il y a un débat entre toi et moi. Tu me cites un hadith. Tu me dis, le prophète m'a dit cela. Le hadith est authentique et se trouve dans Bukhari, Muslim et Sunan. Ibn Majah, Tirmidhi, Abu Daoud et Nasa'i. Je te dis, Jazakallahu khairan. Le hadith, je ne doute pas quant à son authenticité. Seulement pour moi, naam, le hadith naam, n'a pas de relation avec ce qu'on est en train de dire ou sur le sujet sur lequel on est en train de parler. Non, n'a pas de relation. Tu m'as cité un hadith authentique, mais le hadith authentique que tu as cité n'a pas de relation. Non. Donc le prophète islam n'est pas en train de parler sur ce qu'on est en train de parler. Tu m'as cité, n'a pas de relation. Donc, pour certains, tu lui cites un hadith authentique et il le met de côté. Il dit, pour moi, le prophète islam ne vise pas par sa parole, yani, ce que je suis en train de chercher moi, sur quoi je suis en train de parler. Troisième excuse. Le savant, des fois, il estime que le jugement indiqué par le hadith est abrogé. Naam, des fois, un hadith authentique, je dis Barakallahu fik, rapporté par Bukhari Muslim, et c'est vrai, il a rapport avec le sujet, mais il est abrogé. Maintenant, ce hadith, on ne travaille plus avec. Il est abrogé. Naam. Khlas. Par exemple, quelqu'un va dire, c'est interdit d'aller visiter les cimetières. Il ne parle pas des femmes, il parle des hommes, hommes et femmes. On lui dit pourquoi? Il a dit, le prophète alayhi sallam a interdit cela. On lui dit, c'est vrai, Allah, tu n'as pas menti. Il y a un hadith authentique que le prophète alayhi sallam a quoi? A interdit cela. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce hadith a été abrogé. Et il a dit après, ne vous ai-je pas interdit la visite au cimetière? Eh bien maintenant, visitez les cimetières. Donc le hadith qui dit que c'est interdit a été abrogé. C'est pourquoi il ne faut pas t'étonner qu'un savant ne, si tu lui donnes un hadith, te dit non, ce hadith pour moi, il a été abrogé. Donc, de cela, vous comprenez l'importance de celui qui connaît, yani les textes qui sont abrogés, qui ne le sont pas. Sinon, tu vas travailler avec des textes, des versets, des hadiths qui sont abrogés, tu ne sais pas. Naam, tu as lu un livre, tu es tombé sur le hadith qui a dit, n'allez pas visiter les cimetières. Et tu vas aller chez toi, tu regroupes ta famille, tu leur dis, le prophète, alayhi salatu wassalam, venez, je vous apprends une chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, c'est interdit d'aller yani, visiter les cimetières. On va te dire, oui, peut-être qu'il parlait. Tu dis, non, même des hommes, il est interdit. Pourquoi? Tu ne sais pas que ce hadith est abrogé. C'est pourquoi quelqu'un qui fait la da'wah doit yani, avoir le, yani, le disons, je ne vais pas dire le maximum de science, mais les choses nécessaires, il doit les avoir avant de commencer sa da'wah, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh dit, malgré tout, nous devons reconnaître leur mérite. Leur mérite, c'est-à-dire qui? Les savants. Nous devons reconnaître leur mérite sur nous, leur mérite sur nous, et la faveur d'avoir été les premiers croyants, de nous avoir transmis le message de l'envoyé à l'Islam et d'avoir expliqué ce dont la compréhension nous échappe. Ainsi, Allah Azza wa Jalla les agrée et il l'agrée. Comme il a dit dans le Coran, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. Et ceux qui sont venus après les Sahaba, qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Dans nos cœurs, aucune rancœur pour ceux qui ont. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Comme ça disent les pieux, les sincères, les vrais croyants. Les rawafiz disent pas ça. Seigneur, Seigneur, comme ça ils disent. Seigneur, maudis les sahaba. Seigneur, châtie les sahaba. Seigneur, rentre-les éternellement en enfer. Seigneur, ils ont apostasié après la mort du prophète sallam. Seigneur, leurs épouses ont fait la zina. Seigneur, Seigneur, a'oudou billah. A'oudou billah min rawafid. Il n'y a pas plus khabit que les rawafid. Il n'y a pas plus shaitan que les rawafid. Surtout dans notre époque. Dans toutes les époques. Cheikh dit pour terminer. Rabaisser les savants suite à des erreurs d'appréciation juridique venues de la part de certains d'entre eux, c'est l'attitude des innovateurs. Non, cette phrase, il faut, si vous avez un peu d'or et un peu de bijoux, allez les faire fondre, naam, avec du feu, et si c'est possible, d'écrire cette phrase avec de l'or. Rabaisser les savants, suite à des erreurs, parce qu'ils ont des fautes seulement, d'appréciation juridique, survenues de la part de certains d'entre eux, naam, les rabaisser, c'est l'attitude des innovateurs. Les tekfiri, naam. Tu cites un savant, il te dit, oh celui-là, c'est un mourdi, oh celui-là, c'est un ceci, yani, il est tout avec le gouverneur, oh celui-là, il ne craint pas Allah, oh celui-là, comme ça. Non, rabaisser les savants, yani, c'est l'attitude des innovateurs. Cela fait en outre partie, écoutez bien, cela fait en outre partie des plans de la communauté pour semer le doute au sujet de l'islam, lire l'animosité entre les musulmans et creuser un fossé entre les dernières générations de cette communauté et leurs prédécesseurs. Leur but est aussi de semer le désaccord entre les jeunes et les savants, comme c'est le cas de nos jours. Le but, c'est aussi de quoi ? De semer le désaccord entre les jeunes et les savants, comme c'est le cas de nos jours. Naam. Tous les savants, ils te disent, ce ne sont pas des savants. Tous, ce sont des quoi ? Des taouts, des tawarites. Naam. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si tu ne suis plus les savants, qu'est-ce qu'on suit ? Ils te disent, il faut suivre X et Y. Et il va te citer de Al-Fizazi, je ne sais pas qui, les Mubtadi'a, les petits jeunes comme ça qui connaissent quelques hadiths. Naam, et ils ont fait deux des savants, ils ont gonflé, ils ont dit, ceux-là des savants. Naam, ce sont ceux-là des savants. Jusqu'à présent, beaucoup croient que Ben Laden était un savant. Ben Laden, c'était un savant. Le Moula Omar, il te dit, c'est un savant, le Moula Omar. Naam. Et comme ça. Par conséquent, les étudiants débutants, écoutez bien, les étudiants débutants qui dénigrent les juristes, sous-estiment la valeur de la jurisprudence islamique et renoncent à l'étudier et à profiter de ce qu'elle contient comme vérité et comme bon sens, doivent plutôt être fiers de leur patrimoine juridique et respecter leurs savants. Ils ne doivent pas être trompé par les propagandes d'égarement qui complotent contre l'islam. Et Allah Azza wa Jal est celui qui guide. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Je rappelle que le prophète al-islam a dit Al-ulama'u warathatul anbiya. Il a dit d'abord que les messagers, il a dit quand il meurt, jamais l'héritage, mais il laisse la science. Ensuite, il a dit, les savants sont les héritiers des messagers. Allahu Akbar. Moi, qui ? Si j'hérite, j'hérite mon père. Si j'hérite, j'hérite ma mère. Si j'hérite, j'hérite mon frère ou mon fils. Mais si j'étais savant, j'hérite qui ? J'hérite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Regarde. Yani la liaison, la relation entre moi et le prophète. Je l'hérite. Je deviens de sa famille. Subhanallah al-Azim. Donc je deviens proche. Tu ne peux pas hériter quelqu'un qui est loin de toi. Tu hérites un proche. Tu es maintenant très proche du prophète islam. La preuve, tu l'hérites. Il est mort, il t'a laissé l'héritage. Les héritiers à fond, les savants, c'est des messagers. Comme ça a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. Subhanak lahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste pour vous rappeler, inshallah ta'ala, que le prochain cours, j'ai oublié, le prochain cours, c'est le bid'a, les innovations, l'innovation. Pour bien comprendre l'innovation, et non pas comment, yani, tu vois, tout ce que tu fais, il te dit, c'est innovation, c'est bid'a, c'est bid'a, c'est bid'a. Naam. Donc, prochain cours, inshallah ta'ala, on va, bi'idnillahi ta'ala, essayer de bien comprendre c'est quoi la bid'a. Bi'idnillahi ta'ala. Assalamu alaikum.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله J'espère néanmoins que les personnes auront bien respecté la directive à savoir poser une question sur le cours pour commencer inshallah. Donc je commence Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. La première question est la question d'une sœur chère qui vous demande Cher, pouvez-vous réexpliquer et retrouver par le corps. Je vous les remets, cher. Enfin, je vais vous les coller à l'instant. Donc, Jama'a, si vous pouvez réexpliquer, retraduire les termes. Jama'a, regroupement autour de la sunna, regroupement par le corps. Et pouvez-vous renommer l'auteur du livre, Al-Isaba, Fitamiz Sahaba, mentionné au cours précédent. Barakallahu fikum, cher. Après, il y a un petit message que je vous passerai.
Taïb. Donc, il y a Jama'a, c'est Nejtami, on se regroupe, ça. On s'unit, si je puis dire. Mais c'est plutôt on se regroupe, c'est mieux qu'on s'unit, Nejtahid. Donc, on va se regrouper. Il y a deux sources pour faire partie du groupe sauvé. Bon, j'ai oublié de dire salam alaikum. Ijtima
الاجماع يرى بالابدان عفوا بالاديان avec la religion et regroupement avec les corps. Religion, c'est-à-dire on suit le Coran, la Sunna, après la compréhension des salafs. N'est-ce pas autour du Coran et de la Sunna et de la compréhension. On doit faire le deuxième regroupement des corps. On se regroupe autour du gouverneur musulman. Car il est possible que quelqu'un dise, moi je suis le Coran et la Sunna. Et même je suis les salafs. Et pourtant ils critiquent par exemple les savants. Ils critiquent le gouverneur. Ou alors carrément, ils se rebellent contre lui. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait seulement le premier regroupement du din. Il n'a pas fait celui du corps. Il ne s'est pas regroupé autour du gouverneur musulman. Naam. Et celui qui a écrit Isaba Fitami Sahaba, c'est Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a écrit Fath al-Bari. Allez, faddal.
Barakallahu fikoum, cher. Juste pour dire avant de poursuivre deux choses. La première, c'est est-ce qu'il y a une personne qui peut retransmettre dans le salon bis? S'il n'y a personne qui sait comment faire et qui peut le faire. Allez, faddal. Et deuxième chose, si la sœur donc a mis en privé qu'elle avait un numéro, mais que ce n'était pas le bon numéro pour vous contacter. Effectivement, Cheikh avait mis un numéro, mais suite aux abus des personnes, qu'il appelait à des heures inimaginables et qu'il tenait en ligne de longs moments et qu'il posait souvent des questions uniquement sur le divorce. Donc Cheikh a arrêté ce numéro. Et comme il vous a dit, Inila va essayer de mettre en place, via WhatsApp entre autres, un moyen pour que vous posiez des questions. Mais c'est le temps de réparer le téléphone ou qu'il puisse en acquérir un autre, Inch'Allah. Donc un peu de patience. Barakallahu fikoum. Question suivante, Cheikh. Afouane pour cette interview. Deuxième question, question d'un frère. Tfaddal akhi, renvoie-moi ta question. En attendant, je passe à la question suivante. Question d'un frère également qui dit, Cheikh, ma question est sur les sahaba. Pouvons-nous affirmer que tous les sahaba sont au paradis ou juste ceux qui ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car il y avait beaucoup de sahaba à cette époque qui ne sont pas connus notamment. Barakallahu fikoum, cher.
Je n'ai pas compris s'il veut dire est-ce qu'ils iront au paradis ou bien il veut dire est-ce qu'ils sont maintenant au paradis. Fadlal.
La question, c'est est-ce qu'on peut affirmer, nous, lorsqu'on cite un compagnon, que vu que c'est un compagnon, automatiquement, il est au paradis? Ou est-ce que le fait que ce soit un compagnon n'implique pas forcément que ce soit min ahl jannah?
Les gens de la sunna, inshallah ta'ala, disent que, par rapport à cela, ça se divise en deux. Il y a des sahaba que le Coran a cité qui sont au paradis. Il y a des sahaba que le même a cité qui sont au paradis. Lorsqu'il a dit Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Uthman au paradis, Ali au paradis, et il a ajouté 6 autres, ce qu'on appelle les 10. Les 10 Mubasharun bil Jannah. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, tout sahabi est au paradis et ira au paradis, sans le désigner. On dit. Toute personne qui a le statut de sahabi, bi-idhnillah, est au paradis et ira au paradis, comme ça, sans le désigner avec le nom. Non, car le sahabi, vous avez compris que c'est celui qui a rencontré le prophète de son vivant en étant croyant, et il est mort aussi croyant. Donc celui-là, bi-idhnillah ta'ala, le sahabi est au paradis. Mais on ne dit pas X comme ça avec les noms. Il est au paradis. Sauf si Allah Ta'ala l'a cité ou le prophète alayhi sallam l'a cité. Tfadlal. Abu Zakari, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a un admin qui m'entend? Alors je pense que Abu Zakari est déconnecté. Wallahu a'lam. Ça va être déconnecté. Tfadlal Abu Zakari. Abu Zakari, je pense qu'il a des problèmes. Les autres, vous n'avez aucune question?
السلام عليكم، في صوت؟ هل في صوت؟ الحمد لله. Donc je reprends la main, inshallah. Donc la prochaine question, c'est السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ حياكم الله. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré au paradis ainsi que votre famille et nos frères et sœurs présents sur cette room. Ma question est sur les Sahaba. Pouvons-nous affirmer que tous les Sahaba sont au paradis? Et je crois que vous l'avez faite celle-là, cher. Est-ce que vous l'avez faite celle-là? Parce que j'ai eu une coupure moi aussi. Cher, vous m'entendez? Naam. Donc on passe à la suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le statut religieux de celui qui délaisse un hadith clair et authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suit un savant qui contredit ce hadith en prétextant que le savant connaît mieux la religion que les gens de la masse et que s'il a donné un avis contraire au hadith, c'est qu'il a raison. Et s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris ce qu'est un zindik. C'est un mécréant. Jazakallahu khair.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب الله أسبو ما تندي. محمود أسبو ما تندي. الحمد لله. طيب. Je dois m'arrêter 10 minutes inshallah ta'ala. Parce qu'ils ont préparé à manger. C'est quelque chose qui ne peut pas attendre. Donc je vais manger inshallah ta'ala et je reviens. Ceux qui peuvent attendre. الحمد لله. Celui qui ne peut pas attendre. Il pourra, inshallah ta'ala, écouter les questions-réponses en différé. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste, on profite de cette interlude pour essayer de régler le problème pour rediffuser dans la room bis. Même si, alhamdoulilah, il y a des places qui sont libérées ici. Ah, mashallah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je retire ce que j'ai dit.
Assalamu alaikum. Normalement, Bilal a réussi, Inch'Allah. Tout à l'heure, ça fonctionnait, mais j'ai eu un souci, donc j'ai dû me déconnecter. Par rapport à la question, qu'est-ce qu'un zindik? Subhanallah, Adim, on l'a fait pendant les retransmissions des cours, des traductions. Donc, Inch'Allah, si tu peux le lire, Ibn Muhammad, Inch'Allah, parce qu'il y avait cette question. Et en même temps, rappeler les cours, Inch'Allah. Qu'il y a sur les traductions. Jazakallahu khair, ya akhi, Ibn Muhammad.
Ajma'in. Naam, sah. Ça, c'est la parole de Sheikh Fawzan qui a dit, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'un zindiq, il a dit un zindiq, c'est l'hypocrite. C'est celui qu'on appelait avant l'hypocrite dans le Coran et au début de l'islam. Et c'est celui qui montre la croyance et cache la mécréance. Voilà la définition par Sheikh Fawzan du Zindiq. Et donc j'en profite, Naam, pour rappeler les cours. On va commencer par les cours de Sheikh Chalabi. Donc ils sont tous les samedis et mercredis à partir de 21h et on va dire 21h et des poussières. Et les poussières, ça dépend de plusieurs choses. Et donc il faut essayer de se tenir prêt à partir de 21h et plus l'Aïcha monte, plus ça va augmenter. Et c'est dans ce salon, j'apprends l'islam sur la vraie voie. Et d'ailleurs, vous pouvez également écouter le cours en même temps sur Bilux et sur chelabi.com et aussi sur alhuda30100.fr. Par tous ces moyens, bi'idnillah, vous pouvez écouter le cours en direct. Et les cours sont retransmis et sont plutôt retranscrits et donc mis en ligne. Sur alhuda30100.fr et sur chelabi.com. Donc pour ceux qui ratent les cours, vous pouvez les retrouver sur ces sites-là. Et en dehors de cela, et ça c'est autre chose et ça n'a rien à voir avec Sheikh Chelabi, c'est le lundi et le vendredi, à partir de 21h30, il y a des traductions qui sont faites d'audio de savants. En ce moment, le lundi, ce sont des cours de Sheikh Fawzan sur les épreuves. Ce sont des traductions et vraiment, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, les personnes qui peuvent y assister, vous allez, bi'inillah, trouver beaucoup de bénéfices, bi'inillah azza wa jal. Ce sont des petits essais de traduction pour essayer de rendre accessible la parole de Sheikh aux francophones. Donc le lundi, c'est sur les épreuves par Sheikh Fawzan. C'est à partir de 21h30. Donc on fait des petites questions-réponses pour réviser les cours précédents. Ensuite, il y a une traduction. Il y a l'audio qui passe en arabe avec la traduction retranscrite à l'écrit en simultané. Et une fois que cela est fini, il y a la lecture de la traduction. Donc il y a trois choses. Ça, c'est le lundi à partir de 21h30. Et le salon, c'est l'arbre de la science. Et c'est également retransmis sur alhouda30100.fr. Il y a également le vendredi, dans le salon l'arbre de la science toujours. Et c'est le même procédé. Et là, c'est des cours sur la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sur 10 compagnons. C'est un livre de Sheikh Al-Maqdisi, Abdulghani Al-Maqdisi, rahimahullah. Et c'est une explication faite par Sheikh Al-Adani, hafidhahullah. Et c'est la même chose, le cours est en arabe, avec la traduction en simultané à l'écrit. Et une fois que la traduction est finie, une fois que le cours est fini, vous pourrez entendre la lecture de la traduction. Il y a également des questions-réponses pour se remémorer les points importants. Et vous avez de toute façon toutes ces informations sur Twitter. Salafi du 30. Salafi, pas à la fois, non. C'est Salafi du 30. Ou le mien. Voilà, vous avez toutes les informations lorsque les cours sont décalés, avancés ou autres. Et enfin, je finirai sur ça. Cheikh Tchalabi se connecte parfois dans le courant de la semaine. Ça a été le cas cette semaine également, puisqu'il a répondu à quelques questions dimanche et lundi, il me semble. Il a pu répondre à pas mal de questions, enfin quelques questions plutôt. Et donc, quand c'est le cas, quand Cheikh peut se connecter, on vous tient au courant également sur Twitter. Sinon, vous pouvez de toute manière venir assister aux traductions et de temps en temps, il y a des surprises où Cheikh vient répondre. Bi-idhnillah. Désolé d'avoir été long. Et qu'Allah Azzawajal nous facilite à tous l'accès à la science bénéfique et surtout la mise en application de ses préceptes. Tiens, pour occuper, Inch'Allah, les quelques minutes, la dernière fois, Cheikh Tchelabi a posé une question. C'était lundi, donc la plupart n'étaient pas là. Par rapport à un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens. Quiconque meurt sans faire serment d'allégeance aux dirigeants musulmans mourra une mort de la jahiliya, du paganisme, de la période du paganisme. Et Cheikh Tchalabi a posé cette question, il a dit, donc pour les personnes qui ont un dirigeant musulman, alhamdoulillah, donc il suffit de faire serment d'allégeance, mais pour les personnes qui sont en fi bilad kufr, comme c'est le cas pour la plupart des personnes ici, donc, une personne est en France. Que doit-elle faire afin de ne pas tomber dans ce hadith, afin de ne pas mourir mort de la période anti-islamique? Donc, vous avez quelques minutes pour essayer de trouver la réponse. Et après, Inch'Allah, vous aurez la réponse, bi-idhnillah.
Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêt, Inch'Allah ta'ala? La question que tu as posée. Avant que j'aille manger, je l'ai oublié. Par contre, quand j'étais en train de manger, je me suis rappelé, bi-idhnillah ta'ala, une chose qui est, masha'Allah, qui a rapport avec la question posée précédemment. Celle où le questionneur a dit, est-ce que les sahaba, yani, iront tous au paradis ou pas? J'avais répondu à cette question et je me suis rappelé une chose, masha'Allah, c'est quoi? C'est que on a posé une fois Cheikh Al-Albani rahimahullah cette question. On lui a dit, puisque tu dis que et les savants disent, les savants des salafs disent que les sahaba, yani, ce sont des oudoul, des fiables, des gens de confiance, etc., qu'ils iront au paradis. On lui a dit, qu'est-ce qu'on fait du hadith authentique ou alors des hadiths qui sont dans ce genre, comme le hadith authentique où le prophète a dit, et ce hadith lui-même a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahoullah. Il a dit, Qatilu Ammar finnar. Comme ça, il a dit. Il a dit, l'assassin, c'est-à-dire celui qui a tué, l'assassin de Ammar, Ammar ibn Yasir, tous on le connaît, sa mère Soumiya, radiallahu ta'ala, la première femme shahid. D'ailleurs, qu'a dit le hadith? Il a dit, l'assassin de Ammar sera au feu.
قاتلوا عمار في النار. Lui a dit, alors comment tu réponds à cela? Tu as dit que tous les sahaba iront au paradis. Et le prophète a dit, celui qui va tuer Ammar sera au feu. Celui qui a tué Ammar, c'est un sahabi. Alors, qu'est-ce que tu réponds? Il a dit, Cheikh Al-Albani Rahmahullah, il a dit, ma règle, la règle qu'on a citée, est toujours vraie. Il a dit, vous savez que toute règle a une exception. Alors on va dire, tous les sahaba seront au paradis, sauf ceux qui sont sortis de cette globalité par un verset ou un hadith. Comme ça, il a dit. Il a dit, tous les sahaba seront au paradis, sauf ceux qui sont cités par un hadith ou un verset, qu'ils sont, yani, exclus de cette règle. Il a dit, comme le hadith ici, celui qui a tué Ammar ne sera pas au paradis. C'est-à-dire sera au feu. Et quand on dit sera au feu, ça ne veut pas dire éternellement, bien sûr, car c'est un croyant. Il doit ressortir bi-idhnillahi ta'ala. Tayyib, ça c'est ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Je veux dire que d'autres ont donné une autre interprétation et ont dit un hadith pareil qui dit que celui qui a tué va tuer Ammar ira en enfer. Certains ont dit, ira en enfer si Allah ne lui pardonne pas. Mais Allah Ta'ala pardonne aux sahaba. C'est-à-dire, hada jaza'uhu in jaza'. Voilà son châtiment, si Allah Ta'ala va le châtier. S'il le châtie, il va l'emmener en enfer. Mais en général, Allah Ta'ala ne châtie pas un sahaba et il va lui pardonner. Wallahu Ta'ala a'lam. Tayyib. Donc, c'était quoi la question? Inch'Allah Ta'ala, car j'ai oublié. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Non, je n'ai plus le micro, je l'ai lâché et je vous ai demandé de... Yanné, c'est quoi la question maintenant?
Salam alaykoum, désolé parce que moi je voyais sur mon écran que vous avez le micro. Donc, alors la question c'était par rapport... Alors, désolé. Salam alaykoum, rahmatullah yashir. Quel est le statut religieux de celui qui délaisse un hadith clair et authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suit un savant qui contredit ce hadith en prétextant que le savant connaît mieux la religion que les gens de la masse et que s'il a donné un avis contraire au hadith, c'est qu'il a raison?
Donc moi je dis, écrivez le numéro 1 si vous m'entendez. Moi, je dis que c'est impossible qu'on dise d'une personne, celui-là, c'est un savant, ensuite, il délaisse un hadith authentique. C'est pas possible. Sauf si, comme tout à l'heure, on a dit, ou bien pour lui, le hadith est faible, ou bien pour lui, le hadith est abrogé, ou bien pour lui, ce n'est pas ce qu'a voulu dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith. Non. Donc, je dis, si c'est un grand savant, c'est impossible qu'il contredise un hadith authentique. Non, c'est impossible, sauf s'il ne l'a pas fait exprès. Donc, ou bien c'est un grand savant et il ne délaisse pas un hadith authentique sans raison, ou bien ce n'est pas un grand savant, ce n'est pas un vrai savant. Non. Donc maintenant, si un grand savant délaisse un hadith authentique, ça veut dire quoi? Si maintenant moi j'ai des moyens et le niveau pour comprendre que c'est ce grand savant qui s'est trompé, donc il faut suivre le hadith. Dans ce cas, je suis obligé de suivre le hadith. Mais si je n'ai pas les moyens, je suis quelqu'un des gens de la masse, c'est pas raison. Parce que sinon, ce ne serait pas un grand savant. Car un grand savant, c'est impossible qu'il délaisse un hadith authentique. Non, sans raison, je veux dire. Tfadlal.
Rita Amallah, tu n'as pas posé, je crois, la question sur Zindir. Si?
Non, je n'ai pas posé, puisque tu l'avais dit. Mais c'est pas grave, je t'avais envoyé un whisper de le citer, mais bon, frère, Inch'Allah, je vais le citer. Donc, il y avait la question sur le Zindik, et Inch'Allah, on l'avait fait pendant le cours. La dernière fois, les cours qu'on fait sur le salon L'Art de la Science. Donc, la personne posait, qu'est-ce qu'un Zindik? Et on avait mis sur le salon, un Zindik, c'est l'hypocrite, c'est celui qu'on appelait avant l'hypocrite dans le Coran et au début de l'Islam, et c'est celui qui montre la croyance et cache la mécréance. Donc, cher, si vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à cela? Barakallahu fik.
Non, je n'ajoute rien, c'est comme vous avez dit. J'avais pas avant qu'à la base, c'était un hypocrite. L'hypocrite, on dit de lui Zindir. Ensuite, on a commencé à dire de n'importe quel musulman qui laisse, par exemple, les grandes bases, les grands piliers de l'islam, et qui, par exemple, prie une fois et boit de l'alcool, il jeûne un jour et pendant le jour, il fait la fornication, et comme ça. Celui-là, c'est un Zindir, celui-là, c'est pas un vrai croyant. Non, celui-là, c'est un Zindir. En français, on dit hérétique. De toute façon, si on dit d'une personne qu'elle est zindir, chez les prédécesseurs, ça veut dire que c'est très grave. C'est vraiment, yani, qu'il est, yani, l'islam à gauche et lui, tout à fait à droite. Naam. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit, cher, j'ai une question concernant le hadith. Quiconque insulte mes compagnons, il a la malédiction d'Allah, de ses anges et de tous les gens. Pourquoi avoir ajouté la malédiction des anges et des gens? Sachant qu'une personne maudite par Allah Azza wa Jal est déjà promise à un terrible châtiment. La malédiction de ces créatures n'est-elle pas insignifiante, cher, par rapport à celle d'Allah? Ça me rappelle une fatwa de Cheikh Fawzan qui disait qu'il est inutile de maudire Shaitan car Allah l'a maudit. Et donc notre malédiction serait inutile. Cher, j'ai une remarque, ça sera après, Inch'Allah. Donc si vous pouvez déjà répondre à ça, cher.
Je donne, Inch'Allah, ta'ala, deux réponses. La première, c'est une façon pour yani, exagérer dans ce qu'on appelle en arabe « terhib ou tenfir » pour faire fuir la personne, l'âme, et pour qu'elle n'insulte jamais un compagnon. Quand je lui dis « écoute, si tu l'insultes, non seulement tu as la malédiction d'Allah, mais alors de tous les anges et de toutes les personnes. » Donc ça va la faire fuir beaucoup plus en entendant cela. Et deuxième réponse. Supposons que le châtiment de quelqu'un que Allah Ta'ala maudit, par exemple, voilà, il a par exemple tel endroit dans le feu et yani, il est tout le temps dans le feu, etc. Et maintenant, s'il y a en plus de cela la malédiction des anges et la malédiction des gens, peut-être que, yani, même dans ce châtiment, grand châtiment, il y a encore plus grand et plus difficile. Plus grand et plus difficile. Naam. C'est possible comme ça. Car, sinon, pourquoi le kafir? Normalement, quand quelqu'un est kafir, ça suffit pour que ça soit le péché qui va le rentrer en enfer et éternellement, ça. Mais pourquoi là, en parlant du kafir, il a dit dans le verset par exemple, Alou, masalek kum fi saqar. Attendez, Alou, lam nakum min musallin, wa lam nakum mut'im mumkin, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, wa lam nakum nu'min bi yawm al-din. Chouf, je vais vous citer le verset en arabe et en français, et vous allez voir, inshallah ta'ala, ce que je veux dire, bi'idhnillahi ta'ala. Ma salakakum fi saqar. Regardez. Ma salakakum. Ce verset, ça suffit. Voilà. Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Regardez. Ma salakakum fi saqar. Alou lam nakum min al-musallin. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين سان شوز طيب regardez maintenant en français qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Saqar c'est Jahannam, c'est l'enfer. Qu'est-ce que vous avez fait pour être maintenant en enfer? C'est un dialogue qui va se passer Yom al-Qiyama, les gens du paradis parlent avec les gens de l'enfer. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer en enfer? Écoutez ce qu'ils ont dit. Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Ensuite, nous ne nourrissions pas le pauvre. Deux, nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. On restait avec les gens qui disaient des choses utiles. Enfin, nous traitions de mensonge le jour de la rétribution. Donc, traiter de mensonge le jour de la rétribution, ça veut dire qu'il était kafir, il dit qu'il n'y a pas de qiyama. Normalement, ça suffit. Ça, cette dernière phrase suffit. Mais Allah Ta'ala a dit que malgré cela, ils ont dit aussi qu'ils ne faisaient pas la salate, ne nourrissaient pas les pauvres, restaient avec les gens futiles, les conversations futiles. Donc c'est pour te montrer que quoi ? Que Allah Ta'ala va les punir pour le kofr, la dernière phrase, et aussi pour les trois choses précitées. Aussi, pour la salate, le pauvre et les conversations futiles. À peu près, c'est ce que je veux dire pour yani, ils auront le châtiment d'Allah, la malédiction d'Allah, les anges et les autres, les personnes. Wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fikoum, cheikh. Par ailleurs, il fait deux remarques. La première, cheikh, il dit que, en citant le hadith, qu'Allah maudisse celui qui insulte mes compagnons. Vous avez écrit que c'est le numéro 5511 dans Sahih al-Jami'. Mais il dit, Allahu alam, c'est le numéro 5111 et non pas 5511. S'il est possible de vérifier. Et d'autre part, Cheikh, il dit, enfin, vous m'aviez dit que vous nous rapporteriez, Inch'Allah, les preuves qu'il est autorisé de maudire une personne mécréante en particulier. Il dit, Cheikh Abdelaziz al-Cheikh et Cheikh Fawzan disent que l'avis le plus authentique est qu'il n'est pas autorisé de maudire un mécréant tant qu'il est vivant, car on ne sait pas comment il finira sa vie. Peut-être en se repentant et en revenant vers Allah Azza wa Jal. Donc, cher, si vous pouvez éclaircir ces deux points.
Pour le hadith, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas devant moi ici. C'est-à-dire, j'ai le hadith, c'est une nature, je vais le chercher. Une seconde. J'ai le hadith. Je n'ai pas maintenant le cours de tout à l'heure, c'est-à-dire le programme où il y avait cité le ce que j'ai affiché pour je ne l'ai pas. Donc vous pouvez vérifier vous-même si c'est pas le numéro que j'ai cité et si c'est un autre numéro, vous corrigez inshallah ta'ala. Si c'est un autre numéro, vous corrigez inshallah ta'ala. Et le muhim dans tout cela, c'est quoi ? C'est que le hadith inshallah ta'ala est authentique. La deuxième chose, pour celui qui maudit quelqu'un, yani le désigner. J'ai dit la fois passée quoi ? Qu'il y avait une divergence en cela. Et que ceux qui ont dit que c'était permis, ont dit, nous, on ne parle pas de l'avenir. On parle de maintenant. Maintenant, en cet instant, où il vient de faire ce péché, il est maudit. En cet instant. Quant à demain ou après-demain, qu'est-ce qui va lui arriver ? Faire tawbah. Et Allah Ta'ala va le faire entrer au paradis ? Ce n'est pas notre affaire. Comme ça, ils ont dit. Ensuite, j'ai lu un livre, ou alors un passage d'un livre, ça fait pas longtemps, où il a cité les deux avis. Il a dit pour le fait de, yani, de maudire quelqu'un, comme ça, par son nom, le désigner, il a dit il y a deux avis. Comme ça, il a dit. Il a dit un avis, où il dit il ne faut pas le faire, et un deuxième avis où il dit c'est permis, et il a dit et c'est l'avis de la plupart des savants des selfs. Comme ça il a dit premier avis dit faut pas le désigner quand on le maudit, et le deuxième avis dit c'est possible de le désigner, et il a dit comme ça, il a dit et c'est l'avis de la plupart des savants des selfs. Subhanallah al-Azim. Al-Muhim, je vais vous donner quelques hadiths là. Si je trouve, yani le fichier que j'avais préparé, il faudrait d'abord que je me rappelle où est-ce que je l'ai. Si c'est celui-là. Une seconde. Si c'est celui-là. Une seconde. Une seconde. Parmi les dalils de ceux qui ont dit
de ceux qui ont dit que c'était permis de maudire quelqu'un en le citant. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Allah, dis-moi, est-ce que ça se coupe ou ça se coupe pas? Ça va, alhamdoulilah. L'imam muslim, c'est-à-dire dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que j'ai pris un pacte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui ai demandé que yani il accepte ce pacte de moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis un homme comme vous. Alors, tout croyant que auquel je lui ai fait du mal, je l'ai insulté, ou je l'ai maudit, ou je l'ai fouetté, ya Allah, fasse de sorte que ça soit pour lui, yani, des doigts et une purification et un rapprochement, yani, envers toi, vers toi, ya Allah, yawm al-qiyam. Donc ce hadith est rapporté par Muslim. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète? Entre autres, il dit, tout musulman que j'ai maudit. Donc, on a dit, فدل الحديث على وقوع اللعن من النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المعينين من المسلمين تعزير لهم. Celui qui a expliqué le hadith a dit, ce hadith est une preuve que le prophète عليه الصلاة والسلام lui-même a maudit des gens avec leur nom. Il a dit, pour يعني, que ça soit une leçon pour eux, pour qu'ils se corrigent. Tayyib. Ça c'est hadith dans Muslim. Toujours dans Muslim, le prophète alayhi salam est passé devant un âne et il a vu que on lui avait mis comment on appelle ça, je sais pas comment ça on appelle ça, une trace, disent, hein. Des fois l'animal on va faire chauffer par exemple une plaque de fer, on la lui met sur son corps, pourquoi? Pour que yani le reconnaître. On lui va écrire dessus une lettre ou là pour le reconnaître. Et il a vu que on venait de marquer un âne sur son visage. Il a dit La'an Allah alladhi wasama. Il a dit qu'Allah ta'ala maudisse la personne qui lui a fait cela. Alors ceux qui ont dit que c'était permis, ils ont dit regarde, il a maudit la personne elle-même. Il n'a pas dit qu'Allah maudisse. C'est lui qui fait comme ça. Mais il a dit qu'Allah maudisse la personne qui a fait cela. Donc, il désigne la personne elle-même qui a fait cela. Et... Une seconde. Rawa Nasr al-Maqdisi an Abdurrahman ibn Mahdi qad. Il a dit, je suis rentré à la Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu. Et chez lui, il y avait un homme qui lui poser des questions sur le Coran et le destin. Alors il lui a dit, La'allaka min ashabi Amr ibn Ubaid. Je pense, j'ai peur que tu sois du clan de Amr ibn Ubaid. Ensuite il a dit, La'an Allah Amran. Que Allah maudisse Amr avec son nom. Fa'inna ubtada'a hadhihi al-bid'a fi al-kalam. Que Allah ta'ala maudisse Amr car il a inventé cette bid'a dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça se trouve dans Mukhtasar al-Hujja, à la Taj al-Mahajja, d'Abi Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi. Al-Bukhari, rahimahullah, a dit, wa qala waqi' et waqi' ala al-Muraisi ou al-Marisi, ça dépend comment les gens l'appellent, il a dit, la'natullah, la'nahullah, que Allah ta'ala le maudisse. Allah Ta'ala le maudisse. Il a dit, c'est un juif ou c'est un chrétien? Comme ça, Yahoudi ou Nasrani? voir le livre de Khalq Af'al al-Ibad. Naam, Khalq Af'al al-Ibad de Bukhari, rahimahullah. Warawa Abdullah ibn Ahmed, le fils de Ahmed, an Yazid ibn Harun, qui l'a dit, il a dit quoi? La'an Allah al-Jahm. وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ كُلَّهُ تَعَلَى مُوْدِسْ جَهْمْ بْنُ صَفْوَانِ. Et celui qui a dit sa parole. Regarde le livre Sunna de Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, tome numéro 1, page 167. Et le commentateur a dit Isnadu Sahih, chaîne de transmission authentique. Et Rawa Abdullah Aydan, le fils d'Ahmed, an Abbas al-Imbari, an Shad ibn Yahya, قال, il a dit j'ai entendu Yazid ibn Harun dire Man qala, quiconque dit le Coran est créé, c'est un kafir. Wa ja'ala Shad ibn Yahya yil'an al-Murisi. Et Shad ibn Yahya a commencé à dire qu'Allah ta'ala maudisse al-Murisi ou al-Murisi. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dans un hadith qui se trouve dans صحيح ترغيب والترهيب الشيخ الألباني l'a dit authentique que un homme est allé se plaindre au prophète صلى الله عليه وسلم à cause de son voisin. نعم. Il est alors le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit patiente. Il est allé le voir deux ou trois fois, il lui dit patiente. La troisième fois, il lui a dit prends tes bagages et mets-les dans la rue. Alors il a pris ses bagages, il les a mis dans la rue. Il y a son matelas, tout ce qu'il a. Il l'a mis dans la rue. Alors les gens qui passaient ont commencé à lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Il leur a dit voilà ce qui s'est passé. J'ai eu un problème avec mon voisin, le prophète Aslam m'a dit mets tes bagages dans la rue. Alors, فَجَعَلَ النَّاسِ يَلْعَنُونَهُ. Alors les gens ont commencé à quoi? À maudire le voisin. Les gens ont commencé à le maudire. Ils n'ont pas dit qu'Allah maudisse celui qui a fait ça. Ils ont dit qu'Allah le maudisse, qu'Allah le maudisse. Naam. Ensuite, pour terminer, je dis, s'il est permis de dire d'un kafir, naam, que tu es kafir, si jamais il remplit les conditions, pourquoi ne pas dire de quelqu'un tu es un maudit s'il remplit les conditions. Vous avez compris? Si le kafir, imagine qu'un musulman vient à la télé, un musulman qu'on connaît bien, mashallah, prière, hein, il vient à la mosquée, il dit, et avouane, à la mosquée, il monte sur le mimbar, il vient à la télé. Il dit, j'ai bien lu le Coran, et à la fin, voilà ce que je veux dire, il n'y a ni paradis ni enfer. Le Coran a été écrit par Mohammed lui-même de sa main. Et il n'est pas descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a ni enfer, ni paradis, ni yani, châtiment de tombe. Celui-là, est-ce qu'on a le droit de dire de lui il est devenu kafir ou non? Ensuite, quand il termine sa phrase, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa pochette la croix et il la met autour de son oncle, autour de son cou. Naam. Est-ce que celui-là, on a le droit de dire de lui il est kafir ou pas? Si on a le droit de dire de lui il est kafir, on a de quelqu'un, il est maudit. Allahu ta'ala alam. Et celui qui a écrit ce livre-là, d'où je viens de ramener beaucoup de dalil, a dit qu'il y a deux avis. Un avis qui dit c'est permis, et un avis qui dit c'est pas permis. Et il a dit, l'avis qui dit permis, c'est l'avis de la plupart des saïladis. Tafadhal. Entre parenthèses, reste une chose. Vous écrivez. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Reste une chose avec elle que je finis. Je préfère l'avis qui dit il ne faut pas yani, dire comme ça. Il ne faut pas le désigner. Sinon, les gens vont entendre et vont croire que c'est comme ça permis yani, sans de la wabit ni rien. Et les gens commencent donc, celui qui passe, il fait une faute, ils disent tu es maudit, et comme ça. Ah, tafadhal.
Barakallahu fikoum, cher, pour ces précisions. Et la dernière, c'est que le frère a bien raison par rapport au hadith. Et le numéro, c'est 5111. 5111. Quant au numéro 5511, c'est ce que je vous ai affiché, cher. Alhamdulillah. Wa jazakallahu khaira pour nous avoir donc informé de l'erreur. Et qu'Allah récompense également le frère qui a fait la recherche pour le hadith. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit « Cher, je voudrais connaître la maison d'édition de votre livre. Parce que vous avez dit, ils sont mentionnés dans le Coran, et il récite le Coran. Il n'y a pas cela dans mon livre. Barakallahu fikum, cher.
Moi, je vous telle, cette personne qui me donne l'édition de son livre. Je voudrais qu'elle soit telle qui me donne l'édition de son livre. Voilà.
Donc, Akhit Amallah, si tu peux faire la recherche, tu as le pseudo normalement. Question suivante d'un frère qui demande, cher, vous avez évoqué en dernier point concernant les ulama que ce sont les héritiers des prophètes et que s'ils commettent des erreurs, il ne fallait pas les critiquer. Que pourriez-vous nous conseiller concernant certains frères, cher, qui prennent comme cela comme argument pour défendre certaines personnes de la bid'a? Comme certaines personnes, on n'en cite pas le nom pour certaines raisons.
Moi aussi, j'ai la maison d'édition Al-Hadith Bruxelles, Bruxelles 2005. Peut-être que cette personne a la maison d'édition d'Al-Hadith Bruxelles, peut-être 2004-2003, Allah alam. Moi, j'ai la maison. Peut-être que donc, peut-être qu'ils ont rajouté quelque chose, Allah alam. Non. Asmahli, si c'est possible de recommencer la question, jazakallahu khair.
Naam, cher. Donc la question du frère était, donc vous avez terminé en disant que dans le dernier point concernant les ulama, que ce sont les héritiers des prophètes et que s'ils commettent des erreurs, il ne fallait pas les critiquer. Que pourriez-vous nous conseiller, cher, concernant certains frères qui prennent cela comme argument afin de descendre certaines personnes de la bid'a? Barakallahu fikoum, cher.
Je dis, il ne faut pas les critiquer tant que les grands savants comme eux ne les ont pas critiqués. Maintenant, si un grand savant, des grands savants, ont trouvé à ce savant des fautes et l'ont critiqué, surtout des fautes dans le minhaj ou la aqida, maintenant il doit être critiqué. Mais je dis, ce n'est pas permis à quelqu'un de la masse qui va critiquer un savant. Voilà ce que je voulais dire. Bi'idhnillahi ta'ala, tafadhal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante, question d'une sœur qui dit, concernant le hadith, quiconque insulte mes compagnons, il a la malédiction d'Allah, de ses anges et de tous les gens. Je n'ai pas compris, cher, comment tous les gens peuvent maudire la personne qui insulte les compagnons, sachant que parmi les gens, il y a les mécréants, l'innovateur, le musulman, etc. Cela fait-il seulement référence au nombre, c'est-à-dire que cette personne est maudite par un nombre important de personnes? Barakallahu fikoum, m'éclaircir, cher.
En fait, je dis à cette personne, alhamdoulillah, tu es intelligente. Cette personne, je lui dis, tu es intelligente. Car c'est ce que a voulu dire le hadith. Naam. Cette personne a un nombre de malédictions, yani d'après le nombre des gens qui existent. Si nous sommes 5 milliards, donc 5 milliards de malédictions, na'oudou. Sont des milliards de malédictions. Et comme ça. Naam. Tfadlal.
Naam, cher. Barakallahu fikoum. Concernant les personnes qui font des remarques par rapport à la maison d'édition, Shir a répondu dans un précédent cours qu'il s'en sert uniquement comme support. Ce livre lui a été donné. Il s'en sert uniquement comme support et lui, il a le livre arabe. Ce qui lui permet donc de savoir quand les personnes changent des termes ou autres. Voilà, entre autres. Question suivante, cher.
Naam. Je ne vous fais aucun cours de ce livre sans m'être d'abord référé à ce qu'a dit Cheikh Fouzan en arabe. Naam. Pour voir s'il n'y a pas un passage que celui-là a sauté, par exemple, ou bien un mot qu'il a mal traduit. Naam. Je ne vous fais, je ne vous lis aucune chose du livre sans m'être référé au livre de Cheikh Fawzan, hafidhallahu ta'ala, en arabe. Tfadal.
Cheikh, barakallahu fikoum. La question suivante est la question d'une sœur qui dit, concernant les compagnons, il y en a 10 promis au paradis. Cela signifie-t-il que les autres, qui ne font pas partie des 10, sont moins meilleurs ou moins pieux et qu'ils n'iront pas forcément au paradis, cher?
les savants, quand ils commencent à classer les Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, ils ont plusieurs classements. Entre autres, ils commencent par exemple par yani, les quatre califes. Et dans les quatre califes, ils commencent par Abu Bakr. Ils commencent aussi par ceux, par exemple, qui ont fait la hijra, yani, avance, yani, auxiliaire. Et qui ont combattu, par exemple, avant le fait, plutôt que ceux qui ont combattu après le fait, après de la Mecque. Et ils commencent, par exemple, par les 10 qu'on vient de citer maintenant, les 10 qui ont été désignés pour le paradis, yani, ils sont placés avant ceux qui n'ont pas été désignés. Car le fait qu'ils soient désignés, ça veut dire, yani, à 100% maintenant, khlas, à 100%, tu seras au paradis. Les autres, Inch'Allah, ils seront au paradis, mais ils n'ont pas gagné cette certitude. Naam, le fait d'avoir été désigné. Et comme ça. Donc celui qui est désigné parmi les 10 est mieux que celui qui n'a pas été désigné. Naam, en ce sens. Tfadl. Par exemple, ceux qui ont fait l'allégeance, Bay'at al-Ridwan, sont favorisés par rapport à ceux qui n'ont pas fait cette allégeance. Et comme ça. Tfadl.
Fait comme cher. La question suivante d'une sœur qui dit: concernant les sectes, je suis convaincu que la Salafia est le groupe sauvé. Cependant, les adeptes des sectes égarées sont-ils simplement menacés de l'enfer ou iront-ils en enfer sûrement et certainement? Donc je répète, cher. Concernant les sectes, je suis convaincu que la Salafia est le groupe sauvé. Cependant, les adeptes des sectes égarées sont-ils simplement menacés de l'enfer ou iront-ils en enfer assurément? Et concernant les salafis, même s'ils font partie du groupe sauvé, ils sont également menacés de l'enfer. Donc je me demande, cher, qu'est-ce que cela change au niveau du châtiment, puisque dans tous les cas, on est menacé de l'enfer. On est tous menacés de l'enfer. Le salafi sera-t-il moins châtié que le mubtadi, cher?
Ça, c'est basé sur, d'après la personne qui a dit que, yani, elle a supposé, qui a posé cette question, a supposé, yani, même le salafi était menacé d'enfer. Naam. Tayyib, je dis, le prophète, alayhi sallam, a dit que sa nation est divisée en 13 groupes. 72 groupes iront en enfer. Quand il a dit iront en enfer, parmi qui vont aller en enfer, les 72 groupes, il y en a qui vont ressortir et il y en a qui vont rester là-bas éternellement. C'est d'après quoi? D'après, il y a la bid'a faite. Il y a la bid'a et le péché qui, des fois, te rend père. Il y a la bid'a et le péché qui, des fois, te rend kafir. C'est pour ça que l'imam, rahimahullah, quand il a expliqué le hadith des 73 sectes, en parlant des 72 qui iront au feu, il a dit: et ils iront au feu d'après le degré, yani ils resteront au feu d'après le degré, yani de leur péché. Il y en a qui sortiront, il y en a qui y resteront. Quant à l'autre, c'est le groupe sauvé. Naam, c'est le groupe sauvé. Ça veut dire, Inch'Allah Ta'ala, c'est le groupe qui, Inch'Allah Ta'ala, yani, si le Tawhid, le prophète, alayhi serait garanti, bilna Ta'ala, qu'il fera partie des gens du paradis, qu'il fera partie des gens du paradis. Quant à l'autre groupe, j'ai dit que, les 72 autres, il est possible que quelqu'un, yani, non seulement entre en enfer, mais il est possible qu'il n'en ressorte pas. Alors que le groupe sauvé, même si la personne peut rentrer en enfer, hein, si elle a fait de grands péchés et n'a pas fait de tauba, yani, elle ressortira bidna ta'ala, car elle sera sauvée. C'est qu'elle s'appelle le groupe sauvé. Wallahu ta'ala alam.
Il est minuit, donc je pense que je vais vous poser, minuit passé même, je vais vous poser la dernière question, cher. Cher, la question d'un frère. Quand un musulman vous dit, ce n'est pas la peine de faire comme les compagnons, car on n'arrivera jamais à leur cheville, que leur répond, cher?
On lui répond: cette phrase est certes vraie et véridique, mais attention,
ça risque de dégonfler. Certes, aucun de nous ne peut y aller faire ce qu'a fait un compagnon, l'égaler. Comme on a vu tout à l'heure le hadith de tu donnes la montagne d'Ohud dans le nord, tu ne peux pas égaler une poignée d'un compagnon. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des efforts pour yani, les ressembler et que je ne dois pas faire pour les prendre comme elles. Naam, quand tu dis comme ça, les gens peuvent comprendre. Donc, là, je me détourne d'eux, c'est pas la peine de savoir ce qu'ils font, etc. J'adore Allah Ta'ala autant que je puisse, moi, et là, ça suffit. Je lui dis non. Naam. Et essaye de faire, au moins de se rapprocher d'eux. Tu fais pas comme eux, mais au moins de le ressembler. Yani d'être sur leur pas, de les imiter. Et quiconque, un même peuple, sera avec ce peuple. Vous connaissez le hadith authentique. Quiconque, un même peuple, il sera dès leurs. Wallahu ta'ala alam. Voilà, inshallah ta'ala pour aujourd'hui. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Salam wa barakatuh.